C'est avec beaucoup de joie que je me retrouve parmi vous pour vivre ce culte avec vous ensemble. C'est l'occasion de fraterniser avec les visages que je découvre, que j'apprends à connaître, et puis aussi de rencontrer, c'est toujours une joie, les personnes, les visages qui me sont plus connus, plus familiers. Alors c'est toujours une joie de se retrouver et de, je ne sais pas si on peut dire refaire un peu le monde, mais enfin voilà, de pouvoir fraterniser. Comme ça a été dit dans l'introduction, j'ai effectivement cette joie, ce privilège de pouvoir exercer deux ministères qui sont assez distincts, puisque j'exerce un ministère pastoral, et puis aussi en parallèle, j'exerce un ministère de visiteur de prison. Donc je vous dis volontiers quelques mots par rapport à cela, et puis j'enchaînerai directement avec une méditation sur Jésus et la lumière du monde, et sur ce qui découle de cela, c'est-à-dire cette invitation, cette déclaration, vous êtes vous-même, vous êtes la lumière du monde. Alors c'est vrai que pouvoir exercer un ministère au sein d'une communauté, ou exercer un ministère de visiteur de prison, ce sont deux ministères qui sont distincts. C'est pas tout à fait le même public, en fait, hein, que ce soit en prison ou à l'église, mais ce sont des êtres humains. Ça reste des êtres humains, qu'on soit en prison, en détention, ou que ce soit dans le cadre de la communauté. Et puis, c'est beau de pouvoir voir, rencontrer, quelque part, être confronté à l'œuvre de Dieu. Parce que Dieu agit, Dieu œuvre dans les cœurs, en fait, qu'on soit à l'église, ou qu'on soit en prison, qu'on soit en détention. Dieu est là, Dieu œuvre dans les cœurs. Il n'y a pas deux dieux différents. Il n'y a pas le Dieu de la prison et le Dieu de l'église. Le Jésus-Christ de la prison, le Jésus-Christ de l'Église, c'est le même Seigneur, le même Roi, même Jésus-Christ, que j'ai la joie de pouvoir partager, qu'on soit en prison ou qu'on soit dans la communauté. C'est le même Jésus-Christ. Et pouvoir effectivement rappeler et proclamer cet amour inconditionnel de Dieu, que ce soit en fait dans la communauté ou dans le cadre de la prison. Et comme nous le rappelle ce verset du chapitre 25 de l'Évangile de Matthieu, où Jésus dira « J'étais malade et vous m'avez visité, j'étais en prison et vous êtes venu vers moi. » Et c'est sur la base de ce texte-là qu'a été fondée l'association qui s'appelle maintenant Entrevue, anciennement J'étais en prison. Cette association qui existe à peu près depuis une cinquantaine d'années, alors je ne vais bien sûr pas vous faire toute l'historique, c'est certainement pas ce qu'il y a de plus intéressant, mais une association qui depuis de nombreuses années œuvre, travaille, en faveur des personnes détenues dans ce sens où il y a ce désir d'aller à la rencontre, à leur rencontre. Et je crois que dans les trois missions de l'association Entrevue, eh bien, une des premières missions, c'est effectivement de pouvoir offrir une rencontre. Une entrevue, c'est quoi? C'est une rencontre avec une ou plusieurs personnes. Et en détention, les personnes ne peuvent pas venir vers nous. C'est pas possible. Il y a les murs. Il y a les barreaux de la prison, eux-mêmes ne peuvent pas venir à nous. Donc c'est à nous d'aller. C'est à nous d'aller à leur rencontre, d'avoir une entrevue, une rencontre avec eux. Alors effectivement, c'est une de nos premières missions d'aller à leur rencontre. Et concrètement, on se serre la main. On fait parfois même une accolade, parce qu'au fil du temps, au fil des mois, voire des années, on finit par se connaître, on finit par avoir de profonds temps de partage. Donc c'est une réelle rencontre qui est fraternelle, où on se serre la main, on parfois même une accolade, parce qu'on est heureux de se rencontrer. En détention, je rencontre les personnes, je leur serre la main. Mais les personnes elles-mêmes, elles me rencontrent aussi, elles me serrent la main. Elles pourraient éviter cela, elles ne sont pas contraintes ni obligées de venir à ma rencontre. Mais parfois elles le souhaitent. Les personnes qui le souhaitent, elles m'accueillent moi-même. Je vais à leur rencontre, mais elles me rencontrent aussi. Elles m'accueillent et elles acceptent le fait de faire un bout de chemin avec moi, de partager ce qu'elles ont à partager. Et une personne en détention disait un jour, mais le risque, le plus grand risque pour une personne qui est en détention, au bout d'un moment, c'est quelque part la perte d'intérêt pour sa propre vie. Au bout d'un moment, la personne n'a plus d'estime pour sa propre vie. Une perte d'intérêt complet pour sa propre vie. Et assez récemment, une personne détenue me disait, tu sais, Thierry, enfin voilà, parfois on se tutoie, parfois on se vouvoie, mais elle disait, tu sais, ma vie, elle a zéro franc de valeur. zéro franc, zéro centime. Et là, aucune valeur. Parce que pour une personne qui a vécu et grandi dans un contexte de conflit, de guerre, de massacre, de terrorisme, où la vie n'a pas de prix, où la vie n'a pas de valeur. Alors cette personne a été marquée par cela. Elle dit que je sois en vie ou mort, ça ne change rien. Ma vie, de toute manière, n'a aucune valeur. Elle vaut zéro franc et zéro centime. Et de pouvoir avec ces personnes les rencontrer, faire un bout de chemin et leur dire, non, ta vie, elle a de la valeur. Dieu t'aime d'un amour qui est immense et Dieu a aussi des projets de vie pour toi. Et pouvoir petit à petit, effectivement, retrouver confiance et petit à petit pouvoir parler du regard de Dieu sur sa propre vie. Une des missions aussi, effectivement, c'est offrir une parole de liberté. On ne peut pas offrir la liberté. Nous n'avons pas ce pouvoir, ce n'est pas dans nos prérogatives, mais on peut offrir un espace de liberté intérieure. Les murs restent là, les barreaux restent là, mais à l'intérieur, il y a un espace de liberté où la personne peut partager ce qu'elle a partagé, dire ce qu'elle a à dire. Effectivement, parfois, nous avons reçu des retours comme quoi les personnes en détention étaient si reconnaissantes de pouvoir discuter. Mais parfois, c'est de la pluie, du beau temps, et parfois, ce sont des thèmes, des sujets ou des sentiments intérieurs de culpabilité ou autre qu'elles ont besoin de partager, de dire à quelqu'un qui est là pour les écouter et recevoir ce qu'elles ont à dire, quels que soient les sujets ou les thèmes, pouvoir être là, écouter, offrir un espace de liberté. Et puis, troisièmement aussi, notre mission, entrevue, c'est offrir le réconfort qu'offre la grâce de Jésus-Christ. Pouvoir dire, mais Dieu est là pour pardonner, Dieu est là pour te relever, pas pour écraser encore plus, mais pour relever, pour guérir et offrir ce pardon-là. Parfois, on me demande si je rencontre des personnes d'origine ou de confession musulmane en détention. Oui, je rencontre des personnes d'origine ou de confession musulmane. Et puis, est-ce que je rencontre des chrétiens en prison? On oublie parfois de se poser la question. Mais oui, je rencontre des chrétiens en détention. Des chrétiens de nom, des chrétiens de conviction, des chrétiens confessants ou d'appartenance. Mais pourquoi le chrétien est avant tout un être humain? Et qui parmi nous pourrait prétendre et se dire « je suis totalement à l'abri de tout faux pas, de toute encoublade » Qu'est-ce qu'ils pourraient le prétendre, garantir à 100%? Quand j'entends leur parcours de vie, parfois je réalise à quel point je suis un privilégié dans tout ce que j'ai reçu, dans l'entourage familial, dans l'amour que j'ai reçu, le contexte de vie. Je suis un privilégié. Mais en prison, effectivement, il y a des personnes qui croient en Dieu, mais pour tellement de raisons différentes, ils se sont cassés la figure. Et qui va être là pour les relever, leur rappeler qu'il y a encore la grâce, pardon et l'amour de Dieu. Alors effectivement, c'est ce quoi je m'attelle, pouvoir effectivement parler de la grâce, parler de l'amour de Dieu, pouvoir vraiment offrir un espace de réconfort et d'encouragement. Et puis, je vous raconte comme ça une anecdote qui m'a marqué. C'est il y a quelque temps, une personne détenue est venue vers moi. C'était la première fois que je la voyais, et puis elle m'a dit quelques mots à son sujet. Puis après, elle m'a dit, mais puis vous faites quoi dans la vie? Elle s'intéressait à ce que je faisais. Puis je lui ai dit, ben, écoute, je suis pasteur, je suis visiteur de prison, aumônier de prison, visiteur, et puis sans cela, je suis aussi pasteur d'une communauté. Et puis, il m'a regardé avec des gros yeux. Comment, vous êtes curé? J'ai dit, écoutez, ouais, je suis pasteur, enfin, un peu importe, puis la personne m'a dit, comment ça? Ah ouais? Vous avez le droit de venir en prison? Vous avez le droit d'être en détention comme ça, de venir vers moi? Et je trouvais très intéressant c'est quelque chose qui m'a interpellé, parce que lui, il avait le sentiment que, quelque part, qu'on était peut-être enfermé, emprisonné dans nos communautés, et que j'avais peut-être pas le droit de sortir de l'église pour aller à la rencontre de ces personnes. Alors, c'est quelque chose qui m'a touché. Je lui ai dit, non, oui, la communauté, l'église, c'est l'église quelque part qui m'envoie, qui m'invite à aller à cette rencontre, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, peu importe. Mais que l'église soit un lieu ouvert, que nous ne soyons pas en détention, mais libre d'aller à la rencontre de celles et ceux qui en ont tellement besoin. Alors, voilà pour quelques mots. J'ai quelques flyers là. Un petit flyer qui présente l'association Entrevue. Vous pouvez sans doute vous servir. Il y a nos derniers aussi bulletins de nouvelles. Et puis, il y a aussi une petite feuille A5 où il y a quelques cases pour les personnes qui souhaiteraient soit devenir membre actif de l'association, ou bien simplement membre sympathisant pour recevoir aussi des nouvelles. Eh bien, il y a une possibilité pour celles et ceux qui le souhaitent de simplement s'inscrire. Alors, en s'inscrivant, en devenant membre sympathisant ou membre actif de l'association Entrevue, eh bien, c'est pas ça qui va vous garantir, vous mettre à l'abri d'un faux pas, hein. C'est pas un antidote contre tout faux pas. Mais l'avantage, c'est que si tout à coup il vous arrive quelque chose que je ne souhaite pas, ça vous garantit la visite de quelqu'un en détention. Donc ça peut toujours servir, mais c'est bien sûr, je ne vous le souhaite pas. Hein. Mais voilà, par rapport à une petite blague par rapport à cela. Dans ce ministère en prison, en détention, me rappelle régulièrement, lorsque j'y suis ou lorsque je sais que d'autres personnes s'y rendent aussi, où d'autres personnes visitent tellement de situations différentes, se rappelle cette interpellation de Jésus qui nous dit « Mais vous êtes la lumière du monde ». Jésus, avant de s'en aller auprès du Père, eh bien, il avait appelé ses disciples, ils avaient formé, il leur avait confié cette ordre de mission à l'effet de toutes les nations, des disciples. Et au lendemain de Pâques, au lendemain de cette résurrection, on s'aperçoit finalement que les disciples, quelque part, ne sont pas à la hauteur de cette ordre de mission qui leur a été confiée. Ils sont recroquevillés chez eux, enfermés à double tour derrière les barreaux. Ils sont enfermés. Sur le chemin d'Emmaüs, les deux disciples ne reconnaissent pas celui qui chemine à leur côté. Ils ne le reconnaissent pas. Ils dialoguent un moment avec Jésus sans savoir, sans se rendre compte que c'était lui. Donc, effectivement, ils sont aveuglés, ils se recroquevillés. Ils se rendent pas compte, ils sont pas prêts à accomplir cette mission que Jésus leur a confiée. Et pourtant, il y a cette notion-là qui nous est rappelée, et l'évangile de Jean parle en particulier de cette notion de la lumière, en parle avec insistance. Je vous lis quatre textes tirés de l'évangile de Jean, quatre textes brefs, et puis dans l'évangile aussi de Matthieu. Jean 1, les versets 4 à 9. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et la lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point comprise. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint en témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il devait rendre témoignage à la lumière. Le Verbe était la vraie lumière qui, en venant de le monde, illumine tout homme. Un verset tiré de 1 Jean 1,5. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière. C'est que Dieu est lumière. Il n'y a point en lui de ténèbres. Jean 8, 12. Jésus adressa de nouveau la parole à la foule et dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit aura la lumière de la vie et ne marchera jamais dans l'obscurité. » Jean 12, 44 à 46. Jésus s'écria « Celui qui met sa foi en moi, ce n'est pas en moi qu'il met sa foi, mais en celui qui m'a envoyé. Et celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Moi, la lumière, je suis venu dans le monde pour que quiconque mette sa foi en moi ne demeure pas dans les ténèbres. » Et enfin, pour terminer, dans Matthieu 5, les versets 13 et 14, vous êtes le sel de la terre. Si ce sel perd sa saveur, avec quoi la salera-t-on? Ce sel ne vaut plus rien. Il n'est bon qu'être jeté dehors et piétiné. Vous êtes la lumière du monde. Une ville au sommet d'une colline n'échappe pas au regard. Voici différents textes bibliques tirés des évangiles qui parlent avec insistance de la lumière. Dieu est lumière. Jésus-Christ est la lumière du monde. Et vous êtes la lumière du monde. Quelqu'un disait sous forme de boutade, « Chers frères et sœurs, si Christ est la lumière du monde, est-il encore nécessaire d'acheter des réverbères et des ampoules pour illuminer nos rues ? Si Christ est la lumière, comment se fait-il qu'il faille encore allumer nos lampadaires et nos ampoules pour que le monde soit éclairé ? Et pourtant, Jésus est la lumière du monde. Simplement, je pense que la vocation de Jésus n'est pas d'éclairer les rues avant tout, d'éclairer nos cités, d'éclairer nos villes. La lumière du monde, Jésus-Christ veut nous éclairer, nous, personnellement. Éclairer nos cœurs, éclairer nos vies, c'est beaucoup plus qu'éclairer des rues et des villes. Jésus est la lumière du monde. Ce que ça signifie, c'est que Jésus n'est pas seulement la lumière de son peuple, il est la lumière du monde. Il n'est pas seulement la lumière du peuple juif, il est la lumière du monde. Il n'est pas seulement la lumière des disciples qu'il a appelés, il est la lumière du monde. C'est vaste, c'est large, c'est beaucoup plus large que nous l'imaginons parfois. Jésus-Christ est la lumière du monde, lumière des peuples. La lumière est par essence quelque chose qui se diffuse dans le monde entier. C'est la particularité de la lumière du soleil. Le soleil ne vous éclaire pas vous et laisse votre voisin dans la pénombre. Vous ne pouvez pas focaliser le soleil sur vous-même uniquement. Le soleil éclaire d'une manière large, beaucoup plus large qu'on l'imagine parfois. Jésus-Christ est la lumière du monde. Il éclaire dans des lieux, dans des endroits, dans des cœurs que nous ne soupçonnons parfois pas. Et ça nous invite à ouvrir notre esprit, ouvrir notre cœur et imaginer des actions, des œuvres de Dieu là où on pense qu'il n'y a que la pénombre, il n'y a que l'obscurité. Alors que Dieu agit, alors que Dieu œuvre dans les cœurs. Et puis Jésus est la lumière qui apporte la vie. Dans la Bible, la lumière est souvent en relation avec la vie. Il y a un jumelage entre la lumière et la vie. Jésus n'est pas juste un éclairage. Jésus n'est pas juste une lumière qui veut nous montrer un chemin, éclairer un sentier, éclairer un chemin. Jésus est la vie, la lumière est la vie. C'est à l'image du soleil. Le soleil, il nous éclaire, mais pas uniquement. Il apporte de la chaleur et il apporte de la vie. Sans soleil, sans lumière, il n'y a pas de chaleur, il n'y a pas de vie. Jésus-Christ est la lumière du monde, c'est-à-dire qu'il est la vie. Il produit la vie à l'intérieur des cœurs des vies. Il produit effectivement la vie, une vie qui se développe, une vie qui pousse, une vie qui pousse à l'intérieur. Jésus est effectivement venu pour éclairer le monde. Jésus-Christ est la lumière du monde. Ce n'est pas un spot qui veut nous aveugler, qui veut aveugler le monde. On n'est pas au poste de police avec une lumière aveuglante qui serait là pour un interrogatoire ou autre. Jésus est cette lumière qui produit la vie, qui donne la vie. Et ce n'est pas un interrogatoire. Jésus n'est pas venu interroger le monde, il est venu l'éclairer pour y apporter une interrogation intérieure. Mais le monde, Jésus n'est pas au poste de police en train de faire un interrogatoire. L'affirmation de la parole de Dieu dans ce que nous avons lu précédemment, dans ces différents textes, c'est vrai qu'il y a ces différents aspects de la lumière qui nous sont relatés, Dans 1 Jean, il est dit « Dieu est la lumière ». Dans Jean 8, il est dit « Jésus dit qu'il est la lumière du monde ». Et Matthieu 5 nous rappelle « Vous êtes la lumière du monde ». Que Dieu soit la lumière, je l'entends, j'y adhère pleinement. Lorsqu'il est dit que Jésus-Christ est la lumière du monde, j'y adhère pleinement, je le conçois tout à fait. Mais lorsqu'il est dit « Vous êtes la lumière du monde », ça m'est plus difficile à imaginer. Non pas quand je vous regarde vous, mais quand je me regarde moi-même. Ces trois déclarations, « Dieu est la lumière du monde », « Jésus-Christ est la lumière du monde » et « Vous êtes la lumière du monde ». C'est impressionnant, ces trois déclinaisons d'une même lumière, mais une fois attribuée à Dieu, au Christ et à vous-même. Alors c'est vrai que c'est interpellant. Nous avons parfois tendance à interpréter ou lire ces textes d'une façon interrogative, où Jésus dirait « Qui veut être la lumière du monde ?» Une forme de question. Qui est-ce qui veut être la lumière du monde ? C'est une question difficile, hein, si elle est posée comme ça. Je vois pas beaucoup de mains levées parmi vous, hein. J'allèverai pas moi-même le premier, hein. Qui veut être la lumière du monde ? C'est une trop grande responsabilité. Ou une forme peut-être de phrase à l'impératif en disant, faites en sorte, soyez la lumière du monde. Ou faites en sorte d'être la lumière du monde. J'aurais de la peine à savoir comment être, comment faire pour être la lumière du monde. Comment y parvenir ? Ça me semble hors de ma portée, hors de ce que je peux imaginer, quelque chose d'inimaginable. Alors c'est vrai que c'est difficile de simplement accueillir cette parole qui nous vient de Dieu et qui nous dit, qui déclare, vous êtes la lumière du monde. Vous l'êtes simplement. Non pas qui c'est qui veut devenir, qui c'est qui veut l'être, ni un impératif, mais comme une réalité. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes. C'est simplement une déclaration, c'est une évidence qui est décrite, qui est mentionnée. Jésus veut rendre conscience, les disciples, qu'il n'y a pas une énorme prouesse à accomplir pour enfin devenir la lumière du monde. Parce que si la question m'était posée, je me dirais, mais quelle prouesse faut-il accomplir pour être la lumière du monde ? Ce n'est pas une prouesse à accomplir. Être lumière du monde est le fruit d'une relation, d'une communion avec Dieu le Père, avec mon Dieu, qui débouche sur le fait d'être lumière du monde. Ce n'est pas comme un compliment que Jésus donne aux disciples, c'est une réalité qu'il décrit. C'est le fruit qui découle, comme j'ai dit, de cette communion, de cet amour que le Père a pour nous, de cette confiance que l'Esprit-Saint nous donne, de cette affection, de cette amitié, de cette communion spirituelle de Dieu avec nous, avec ses enfants. Ils sont la lumière du monde. C'est une évidence, c'est une réalité qui est décrite. Parce que nous sommes fils et filles de Dieu, tout simplement. Et de ce statut-là, fait en sorte, aboutit au fait que nous soyons lumière du monde. Est-ce qu'on peut relever dans cette déclaration que Jésus dit à l'égard des disciples, bien, quelques versets avant, dans ce chapitre, ben, Jésus déclare la luminosité juste après les béatitudes. Au début, Jésus avait dit, heureux ceux qui se reconnaissent spirituellement pauvres, heureux ceux qui pleurent, heureux ceux qui sont humbles, heureux ceux qui ont faim et soif de justice, heureux ceux qui témoignent de bonté, qui sont purs, qui répandent la paix, qui sont opprimés. Il y a tout cela qui est décliné, qui pleurent, qui sont humbles, qui sont opprimés. Tout ça est décliné, et après, effectivement, il est dit, vous êtes la lumière du monde. Et c'est vrai que c'est impressionnant de voir que cette déclaration, vous êtes la lumière du monde, elle intervient au début du ministère de Jésus, au début du ministère des disciples, quelque part juste après l'appel. Vous êtes la lumière du monde n'est pas l'aboutissement d'une formation, d'un cursus qui a parfaitement été exécuté. Jésus ne dit pas cette parole à la fin des 3 ans de ministère et de formation. Il le dit au tout début. Il venait d'être rappelé. Jésus venait d'aller les chercher personnellement. Et juste après, il leur dit, vous êtes la lumière du monde. Alors que dans notre conception, on se dit, quel est le cursus à effectuer? Quelle est toute la formation à vivre qui me donnerait ce diplôme et cette certitude d'avoir atteint cette perfection et d'être enfin cette lumière du monde? Et là, Jésus le dit au tout début, alors qu'il venait d'appeler juste ses disciples. Mais déjà, ils sont la lumière du monde. Cette luminosité n'est pas déclarée à la fin du ministère, mais au tout début. Et je trouve que c'est un immense encouragement, parce qu'être lumière du monde, c'est simplement répondre à l'appel de Dieu. C'est simplement dire, Jésus, oui, je t'aime. Je t'aime d'un amour qui est immense. J'ai tellement d'imperfections. Mais Seigneur, je t'aime. Je sais que tu m'aimes. Et de cela, de cet amour, découlera le fait que nous serons et nous sommes lumière du monde. Et puis, ce qui est aussi intéressant, c'est que Jésus déclare cette luminosité des disciples à l'ensemble du groupe. Vous êtes la lumière du monde. Il y avait plusieurs disciples. Il y a en fait un appel qui est personnel. Chacun est appelé de manière personnelle. Pierre, Jean, André, tous les disciples sont appelés, Matthieu, de façon individuelle. Et Jésus leur dit, vous êtes la lumière du monde. Ensemble, en tant que groupe, il n'y a pas un qui est lumière, l'autre qui est sel, l'autre qui est un gros projecteur, l'autre qui est un petit lumignon. C'est ensemble. Ensemble, vous êtes la lumière du monde. Il y a un appel personnel sur la vie des disciples, mais il y a un appel collectif, communautaire, à être cette lumière du monde. C'est en tant que groupe, en tant que communauté, que nous serons lumière du monde. Alors je crois que pour être lumière du monde, il faut parfois accepter de quitter notre individualisme. Parfois, j'aimerais bien être la lumière du monde à moi tout seul. Juste moi, ce grand projecteur qui éclaire tout le monde. Abandonnons cela. Parfois, nos aspirations personnelles, nos ambitions personnelles, nos ministères peut-être particuliers qui pourraient être nourris ou alimentés par ce désir d'être lumière du monde. C'est ensemble, en tant que communauté, quelle que soit la grandeur du groupe, la grandeur de la communauté, vous êtes la lumière du monde. C'est accepter que chacun aura sa spécificité, chacun un appel, chacun une vocation particulière, et c'est ensemble que cette lumière va briller, avec des colorations différentes, des accents différents, mais c'est ce ensemble qui fait, qui va donner cette brillance et cette luminosité. Le monde verra l'amour de Dieu à la manière dont ils sont unis. Pour reprendre aussi un autre verset de l'Évangile de Jean, c'est à cet amour qui a les uns pour les autres que le monde verra, Christ verra l'amour de Dieu. Donc c'est ensemble que nous sommes invités à briller, invités à rayonner. Nous sommes effectivement cette lumière du monde en tant que groupe, tous ensemble. Alors nous sommes différents, chacun a un chemin qui est différent, mais c'est ensemble que nous sommes invités à briller. Et aussi, effectivement, je crois que c'est important d'oser dire, mais on peut avoir plein d'appréhension sur ce monde où il y a tellement de défis, tellement de souffrances, tellement de douleurs. On peut avoir plein d'appréhension et avoir un regard parfois extrêmement défaitiste ou négatif sur ce monde qui nous entoure. Ce qui est vrai, mais est-ce qu'on n'a pas une vocation de ne pas s'enfermer, de ne pas se retirer du monde? Nous ne sommes pas du monde, mais nous sommes dans le monde. Oser quelque part aller avec cette grâce, cette vocation que nous savons être cette lumière du monde. Et je crois que on peut l'être par notamment 2 aspects, pour terminer, c'est la prière. Nous croyons, nous rappelons l'importance de la prière, qu'elle soit communautaire, qu'elles soient personnelles, la Bible nous invite à, notamment à prier pour nos autorités, à prier pour toutes celles et ceux qui prennent des responsabilités et qui sont impliqués et engagés dans le monde dans lequel nous sommes. Prier pour eux et prier pour les contacts que nous avons. Et puis, effectivement, par cette solidarité du groupe, c'est tellement important d'être ensemble. En tant que communauté, ou peut-être parfois juste à deux, trois, prier pour nos voisins. Cette solidarité, parfois on oublie qu'un sociologue a dit, mais parfois juste avec 2% de personnes, on peut faire changer la mentalité de tout un groupe, peut-être de tout un canton, toute une ville, je ne sais pas, ça paraît un peu prétentieux, mais ne pas sous-estimer l'importance d'un petit groupe qui est là pour prier, pour simplement accepter de rayonner autour de lui, d'accomplir cette mission que Dieu a donnée, de simplement pouvoir être là. Alors, accueillons le fait que nous sommes, vous êtes, la lumière du monde. Chacune, chacun d'entre vous, c'est une déclaration de cette parole de Dieu, vous êtes vous-même, celle, la terre, lumière du monde, de façon individuelle, mais c'est aussi au groupe que la parole nous l'a donnée. En tant que groupe, vous êtes lumière du monde. Amen. Seigneur, merci pour cette parole, cette Bible que tu nous as laissée, qui nous parle de cette lumière. Dieu est la lumière. Jésus-Christ est la lumière du monde. Il y a cette invitation, vous êtes la lumière du monde. Seigneur, on cherche parfois, on se pose plein de questions, est-ce que je suis cette lumière du monde? Est-ce que j'y arrive? Ou quelles sont les exigences à effectuer pour y parvenir? Simplement ce matin, tu nous rappelles que comme nous sommes, comme dans cet appel, cette vocation, cette relation à toi, bien découle le fait que nous sommes lumière du monde, dans ce monde dans lequel nous a placés, où tu nous as mis. Seigneur, je te prie pour cette communauté de vie, pour toutes les communautés, tous les groupes qui sont ici, ailleurs. Seigneur, bénis-les, ressource-les, et Seigneur, que tu nous donnes cette grâce simplement d'accueillir le fait que nous sommes lumière du monde, d'accueillir ça comme une grâce qui vient de toi, que ce soit en prison ou ailleurs, qu'il y ait encore, Seigneur, cette lumière qui puisse éclairer, qui puisse être source de vie, Seigneur, dans les cœurs, dans les vies, qui ont besoin de te rencontrer, besoin d'être touchés et visités par ton Esprit Saint. Amen. Amen. Amen.